Je suis dans le 18e arrondissement en compagnie de Blaise Merlin. Blaise Merlin, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors Blaise Merlin, tu es programmateur dans ce quartier de la Goutte d'Or.
Oui, enfin, disons que je fus programmateur, mais je compte bien le devenir. Avant, c'était l'Olympique, hein, entre 99 et 2002, donc je peux pas m'empêcher de parler un peu d'une grande époque avec un brin de nostalgie. L'époque de la Compagnie des Musiques à Ouïr, des Enfants des Autres, d'Acoche, de Raoul Barbosa, Marc Perron, etc., etc., qui venaient jouer là-bas. Avec dans une ambiance toujours assez abondante et puis les trois frères par la suite aujourd'hui on est en train de travailler au lancement d'un nouveau lieu qui serait aussi et avant tout un lieu de création de résidence et qui s'appelle la Teinturerie c'est un lieu qui a toute une histoire. C'est une ancienne teinturerie de plumes où venait se fournir Mistinguett. Ça se trouve rue Mira et en plein cœur du quartier. Ça a été repris par un monsieur qui s'appelle Philippe Dubois et qui souhaite développer des activités musicales. Et on travaille ensemble là-dessus. Voilà.
On peut rappeler le style musical que tu programmes, Blaise?
Ouais, alors bon, entre-temps, là, depuis 2 ans, j'ai continué à programmer des concerts au Point Éphémère et puis bien sûr les deux festivals Jazz Nomade, La Voix est libre au Bouffe du Nord et Musique et Jardin dans le 18e. Et tout ce travail, ça tourne autour des musiques inclassables, donc pas envie de les classer. Mais non, c'est un peu les artistes qui arrivent avec des univers singuliers, qui sont en dehors des formatages. Et qui travaille en même temps dans une optique exigeante et ouverte de création qui mélange le jazz, les musiques du monde, le slam, qui brise un peu les frontières entre l'oral et l'improvisé, le savant, l'urbain, etc. Donc en fait, ça peut sembler un peu fourre-tout quand on en parle, mais en fait, finalement, on se rend compte que c'est vraiment une génération d'artistes bien précise, une scène artistique bien visible, lisible, qui agit dans ce sens aujourd'hui, quoi.
Alors, comment t'es venu à l'idée d'être programmateur?
Ah, je sais pas si c'était un concept avant que ce soit une réalité. Mais en fait, disons que je suis passionné de musique depuis longtemps. Bon, moi j'ai grandi dans un milieu qui est plutôt le théâtre par mes parents, mais au-delà des mots et du sens, il y a les sons et l'ouïe. Et peut-être que j'ai voulu creuser dans ce sens-là assez jeune. Moi-même, j'ai commencé à faire du violon à 6 ans, à faire des bandes son par ordinateur avec un Atari quand j'avais 15 ans. Il y avait un super atelier d'informatique musicale dans mon collège. Tout ça a fait que la musique m'a envahi peu à peu. J'ai fait des études d'ethnomusicologie à la fac. Et à cette période-là, je me suis mis plus souvent en fait à aller voir des concerts dans des lieux alternatifs, notamment à l'époque il y avait l'atmosphère, il y avait les falaises à Montmartre, des lieux où on faisait un peu de ces musiques transversales, modernes, mais qui sont pas forcément formatées rock et électro. Même si parfois elles intègrent des ingrédients. Et donc je me suis mis à écouter plus de musique qu'à en faire, à passer mes dimanches chez des disquaires aussi comme L'Œil du Silence à Montmartre ou Bimbo Tower, tout ça. Et ça m'est venu presque naturellement. Dès que j'ai eu la possibilité, un peu par hasard, d'organiser des concerts, je l'ai fait avec des amis, des musiciens que j'ai rencontrés à la fac, dans des bars. Et très vite, c'est devenu un travail, une passion, comme ça, par la force des choses. Voilà.
Quels sont les premiers artistes que tu as programmés?
Alors, les tout premiers que j'ai programmés, alors, malheureusement, c'est des groupes qui n'existent plus. Mais par contre, c'est des musiciens qui continuent à jouer aujourd'hui, qui sont très actifs. Le tout premier groupe que j'ai programmé, il s'appelait Hassanissimassa. Et c'était un groupe qui mélangeait un peu free jazz, musique populaire italienne, musique de l'Est, avec une chanteuse improvisatrice qui maintenant vit à Marseille, Natacha. Et peut-être que ça a été un choc, ce premier concert, où là je me suis dit, bah, peut-être que je suis fait pour ça, parce que j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, il y avait des choses très fortes qui se passaient en musique, avec une ouverture comme il pouvait y avoir. Au début des années 70, une espèce d'explosion un peu des genres. Et puis le deuxième groupe, ça s'appelait Sextilédon, et c'était un, ça mélangeait le jazz et la musique éthiopienne. Mais dans tous ces premiers groupes, je pourrais citer aussi par la suite IXO, enfin à l'époque c'était Alexandre Hotelin, la compagnie des Musiques Aouir qui sont arrivés quelques mois après, Les Enfants des Autres, où jouaient Bertrand Belin et Pierre Le Bourgeois qui jouent maintenant avec Nosfell. Enfin, tout ça a un peu essaimé, c'est un peu. voilà. Mais il y avait les Chevals aussi, une fanfare. Ça fait partie des premiers groupes aussi que j'ai programmés.
Parler maintenant du présent, Blaise Merlin.
Le présent, alors le présent, c'est un présent qui est toujours en chantier, on ne sait jamais trop où ça va. Disons que moi je travaille autour de deux axes principaux. Alors il y a les festivals. Alors les festivals, j'ai compris au fur et à mesure que c'était un espace de travail très important pour défendre les musiques qu'on défend. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les lieux où, qui sont un peu la base, hein, où c'est là où les publics se forment, où les formes aussi se rencontrent, se créent et sont rendues publiques. Et donc ça c'est les lieux. Et aujourd'hui la situation à Paris pour les lieux, je la trouve très précaire et très difficile pour ces musiques-là, encore plus qu'il y a 5 ou 6 ans. On y reviendra. Et puis d'autre part, il y a les festivals où là, on peut vraiment bâtir un projet, demander des subventions, avoir des partenaires médias, investir des lieux comme les Bouffes du Nord, et où c'est l'occasion vraiment de montrer qu'une scène musicale existe, qu'elle est riche de pensées, de créativité. Je parle à la fois sur les plans esthétiques, politiques, enfin que voilà, il y a des choses à dire, à faire entendre. Et donc moi, c'est vrai que mon association Long Décibel s'est spécialisée dans l'organisation de ce type d'événement à Paris. Donc c'est pas des gros festivals, c'est des festivals où on essaye vraiment de montrer d'être à l'écoute des surgissements de la création actuelle, mais en faisant venir aussi des locomotives, comme on dit, des têtes d'affiche qui sont un peu aussi des pionniers dans les musiques improvisées, musique du monde, dans une approche actuelle de ces musiques-là. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, il y a Jazz Nomade au Bouffe du Nord, dont la prochaine édition aura lieu début mai 2007. Alors Jazz Nomade, depuis 2005, c'est donc au Bouffe du Nord, et ça s'appelle La Voix est libre, La Voix avec un X, parce qu'on a trouvé bon de montrer que les musiques improvisées étaient liées beaucoup à l'oralité et que ça pouvait beaucoup rejoindre le slam, la chanson, qu'il n'y avait pas de frontières entre ces formes-là et qu'au contraire, ça pouvait que s'enrichir et rendre les choses encore plus belles et plus fortes. Et en 2005, le festival où tu étais, d'ailleurs, les trois soirs, a eu un gros succès. Ça a été vraiment une réussite. On a cassé un peu les formes traditionnelles de première partie, deuxième partie. Ça marche plus comme des cabarets où il y a des interventions vocales, des duos, enfin voilà, assez ouvert et beaucoup de création. Et puis on prépare Musique et Jardin, qui est un festival gratuit dans les parcs, donc pour juillet 2007. Et puis on essaye donc d'ouvrir ce lieu à la Goutte d'Or, ce nouveau lieu, la Teinturerie, qui est une rencontre donc dans le cadre d'un projet qui s'appelle Paris-Zurich. Et c'est une rencontre entre une artiste suisse, Irène Schweitzer, une immense pianiste de la scène improvisée européenne, et Denis Charolles, qui est notamment connu pour être le batteur de la compagnie des Musiques à Ouïr. Voilà.
On dit toujours la reine du musette. Ce signe-là. Alors que je ne suis pas musette du tout. Je suis pas musique. Non. Tu me dis tout.
Nous sommes toujours en compagnie de Blaise Berlin, programmateur actuellement de Jazz Nomade et Musique et Jardin, entre autres, et prochainement de la Teinturerie. Est-ce qu'on peut revenir sur les premières éditions justement du festival Jazz Nomade?
Ouais, alors c'est vrai que ça commence un peu à être une longue histoire, parce que Jazz Nomade, c'était la synthèse, quand je l'ai créé, de mon travail de programmation à l'Olympique, qui a duré 3 ans, et où il y a eu 20 concerts par mois à peu près pendant 3 ans. En fait, au départ, c'est Joël Léandre, qui est une contrebassiste exceptionnelle, que tu connais très bien, je pense, qui est vraiment sur les routes depuis 30 ans avec sa basse et sa voix, et qui a rencontré vraiment tous les grands noms de la musique improvisée d'aujourd'hui, du XXe siècle, etc. Et pas que, aussi de danse, de poésie et tout ça. Et je l'avais rencontrée un peu par hasard à l'Olympique. Elle était venue jouer un soir pour un label qui s'appelait Rectangle. Et en fait, ça a été une rencontre très forte qui m'a beaucoup apporté. On a beaucoup sympathisé. L'Olympique, ça lui rappelait un peu les Downton à New York et tout ça. Et l'ambiance qu'il y avait et tout ça. Et donc, elle m'a aidé en fait à mettre en place ce projet qui veut mettre en avant la richesse de la scène émergente improvisée, mais au-delà quoi de cette scène transversale justement. Et c'est aussi un échange entre deux générations d'artistes, ma génération et la génération de l'avant-garde des années 70, 80, qui est encore bien vivante aujourd'hui, le free jazz, etc. Mais qui a pas, c'est des conceptions aussi un peu différentes qui se confrontent. C'est vrai que la génération d'avant revendiquait l'improvisation de manière très radicale, l'impro libre, ce qu'on appelle les musiques improvisées, alors que ma génération revient plus vers l'écrit, mais en gardant l'héritage de ce mouvement spirituel, musical et tout ça. Donc voilà, Jazz Nomade, c'est parti dans cet esprit-là en 2002 au Lavoir Moderne. Et avec l'aide à l'époque de la Spedidam et de la SACEM et de la mairie du 18e, on avait pu lancer le festival et accueillir des artistes qui venaient de plein de pays différents. Et on l'avait refait en 2003 avec notamment Alan Silva et William Parker qui avaient fait un duo de contrebasse assez exceptionnel. Et par la suite, j'ai eu ce projet qui a germé de rencontre entre les formes orales et vocales tous azimuts et les musiques improvisées, donc pour les Bouffes du Nord.
Alors, Jazz Nomade, pourquoi ce titre Jazz Nomade?
Alors ça, en fait, c'est rigolo parce que c'est lié à ce dont je parlais avant. C'est les premières soirées que j'ai organisées, les premiers concerts. J'avais 19 ans, j'étais à la fac de Saint-Denis. Ça s'appelait les soirées Jazz Nomade. Et en fait, ça m'est venu vraiment comme ça, sans réfléchir du tout. Il fallait que je trouve un nom très vite parce que pour imprimer des flyers en deux temps, trois mouvements, c'était un fait très à l'arrache comme ça. Et en fait, simplement, je m'étais rendu compte que c'était qu'il y avait deux choses que je trouvais belles aujourd'hui. C'était les musiques du monde d'une part et le jazz et les musiques improvisées d'autre part, et que ces deux choses aujourd'hui se rejoignaient beaucoup. C'était aussi parce que bon, moi j'ai grandi à la Goutte d'Or, je vis à la Goutte d'Or, et pour moi l'idée à la fois de l'improvisation et du voyage, je parle au-delà de la musique, c'est deux notions qui sont fondamentales. Donc pour moi Jazz Nomade, c'est une sorte d'idéal. Voilà.
Est-ce qu'on peut citer quelques artistes qui étaient présents lors de ces deux premières éditions?
Alors, lors de ces premières éditions, tenez-vous bien, il y avait donc Joël Léandre, André Mainviel, Marc Perron, Christophe Monio, Carlos Zingaro, super violiste portugais, il y avait William Parker, Alan Silva, il y avait Beniata Chiari, Médéric Collignon, Denis Charol. Il y en avait plein d'autres, il y avait Peter Corsair, enfin tous les jeunes que je continue à défendre. Et aussi quelques têtes d'affiche comme ça. Et puis, il y avait Élise Dabrowski, Ixo, Akoche, Eric M. Voilà, tout ça en 2002 et 2003. Hein. Ça faisait 5 soirs à chaque fois en deux parties.
Tant pis, la fête a fait tous les ballons, il n'a pas le boiteux. Et si l'oreille a oui, tous les ballons, il n'a pas le boiteux. Bah, ça file en file aussi, là, c'est le chef de filet, dit filon sec, la fou, la file, la folie, fou, gagne de lui en boucher un. Hein. Ça file en file aussi, là, c'est le chef de filet, dit filon sec, la fou, la file, la folie, fou, gagne de lui en boucher un. Coin, les babas, les papis, les mamies, les mimi, l'otan, les tata, assis, les dada, les papas, tatillons, les tontons du bic à l'étroit. Coin, les babas, les papis, les mamies, les mimi, l'otan, les tata, assis, les dada, les papas, tatillons, les tontons du bic à l'étroit. Coin, les babas, les papis, les mamies, les mimi, l'otan, les tata, assis, les dada, les papas, tatillons, les tontons du bic à l'étroit. Coin, les babas, les papis, les mamies, les mimi, l'otan, les tata, assis, les dada, les papas, tatillons, les tontons.
Pape ou papoulet de son bon, tiens dans la solution. Dodo, qu'on n'est pas à caca quand tu y es, fallait pas commencer tout petit. Plus tu grandis, plus il y a du pé. Pépé, tu ronronnes à rôder sur ton accordéon. Flonflon, c'est du bal qui gagne. Zadal, au musée du soufflet, à bout en temps, t'as gagné le pompon.
Tout ça avec nous.
Tiens donc, tu l'as dit, bouffissez le bon filon, filon don. Tant, t'as gagné le pompon. Tiens donc, tu l'as dit, bouffissez le bon filon, filon don. Tant, t'as gagné le pompon. Partons galoper le baluchon, baluche, stop aux idées qui ont du bidon.
Partons galoper le baluchon, baluche, stop aux idées qui ont du bidon.
Partons galoper le baluchon, baluche, stop aux idées qui ont du bidon.
Partons galoper le baluchon, baluche, stop aux idées qui ont du bidon.
Partons galoper le baluchon, baluche, stop aux idées qui ont du bidon.
Partons galoper le baluchon, baluche, stop aux idées qui ont du bidon.
Partons galoper le baluchon, baluche, stop aux idées qui ont du bidon.
Partons de me balader.
Thank you.
Bien, on peut parler de du futur maintenant. On a parlé de du passé, du présent.
Ah mais j'ai quand même un peu parlé du futur, mais bon, je peux vous parler en exclusivité pour la première fois de manière officielle de la programmation du prochain Jazz Nomade La Voix est libre au Bouffe du Nord. Alors, je peux pas trop en parler non plus parce que la programmation est en cours et les demandes de subventions sont en cours. Et voilà, de l'un va dépendre de l'autre aussi. Mais disons que pour l'instant, on a trois soirs comme en 2005, trois grandes soirées, longues soirées. Au Bouffe du Nord avec une thématique par soir. Donc le premier soir ce serait un festin des Suds en opposition à Bouffe du Nord et c'est pour montrer la vivacité justement à travers l'avant-garde et le street jazz et le slam etc. des musiques des cultures un peu régionales qu'il y a en France. Et donc il y aura notamment Bernard Lubat, André Mainviel, Beniata Tchari qui vient du Pays Basque. Et peut-être Paco Ibanez, un grand chanteur qui fut aussi un grand militant politique espagnol. Ce sera une présence assez symbolique. Et puis il y aura une deuxième soirée avec qui s'appelle Hors Champ. Alors ça, Hors Champ, c'est une thématique qu'on avait déjà en 2005. Hors Champ avec un T. Ça veut dire toutes les formes contemporaines, inclassables, à la fois que ce soit du slam, du théâtre, de la poésie. En lien avec l'improvisation, donc il y aurait un cabaret avec la compagnie des musiques à Ouïr, avec plein d'invités, comme à la fois d'improvisation comme Joël Léandre, Maggie Nichols, une grande vocaliste anglaise, Arthur H, Loïc Lantoine, Christian Pacou pour la chanson, Eric Larenne. Il y aurait aussi des petits duos, on n'a pas encore bien fixé les choses, mais avec des slameurs et des poètes et des musiciens. Donc ça, pour le moment, je réserve la surprise, parce qu'il y a encore pas mal de possibilités. Et le troisième soir, ce sera une soirée autour de la créolité. Et la créolité donc de ces peuples qui sont assimilés à la langue française, mais qui ont encore une identité très forte et qui ont leur forme aussi de blues. Enfin, il y a beaucoup de parallèles entre le Maloya et le Séga de La Réunion, par exemple, et le blues. Et c'est aussi des musiques qui sont à la source d'inspiration de pas mal de grands jazzmen. Donc, il y aura en point d'angle de cette soirée la rencontre entre Daniel Warraud et Titi Robin. Et avant ça, il y aura des créations, des rencontres dont je préfère pas encore dévoiler la teneur exacte. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler de la scène musicale aujourd'hui ? Quel est ton regard dessus ? Enfin, les salles parisiennes, par exemple ?
Ouais, alors moi, je trouve qu'on est dans une situation qui est vraiment très difficile. Pour moi, on est dans un état d'urgence, véritablement. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai créé Jazz Nomade en 2002, j'avais un peu l'impression de défendre une espèce en voie de disparition. C'est à travers toutes ces musiques qui sont pas formatés, qui sont pas parce qu'aujourd'hui la production à grande échelle, les maisons de disques s'intéressent plus beaucoup à ces musiques-là malheureusement, puisqu'on est de plus en plus dans une culture de masse qui tend à effacer un peu les singularités et le but étant de vendre la même chose à tout le monde en créant des effets de mode successifs. Enfin voilà, je résume un peu, mais on est de plus en plus dans ce mode-là de fonctionnement au niveau de la production discographique. Et je trouve qu'aujourd'hui, s'il y a bien un truc qu'il faut sauver, qu'il faut préserver, c'est la vie musicale dans les lieux, dans les concerts, qui peut encore exister même sans distribution discographique à grande échelle. Il y a encore beaucoup de demandes du public, des habitants, pour des lieux comme ça, pour des musiques qui sont directement issues de la rencontre, de la vie, de l'exigence et de l'ouverture des artistes. Et malheureusement, je pense que on s'en rend pas assez compte de l'importance de cette chose, notamment à Paris, où il n'y a aucun lieu aidé pour les musiques improvisées au sens large, où il y a des petits lieux comme l'atelier du plateau qui font des choses, etc. Mais il n'y a pas de lieu aidé où on peut défendre une éthique professionnelle conséquente, où les artistes sont accueillis pour faire des créations, comme c'est le cas à Marseille par exemple, au Grimm ou à la Friche ou à Mimi, la Belle de Mai, comme c'est le cas au Panonica à Nantes, comme c'est le cas avec Zutik et Tribu Festival à Dijon. Enfin, à Paris, on n'a pas de structure comme ça. Et je pense que c'est là-dessus maintenant qu'il faut concentrer toutes les énergies si on veut pas que la situation se dégrade et devienne irréversible. Voilà.
Et c'est dû à quoi, à ton avis?
Bah, c'est dû au fait qu'il y a un manque de clairvoyance de la part des politiques par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à Paris, on a voulu développer des gros lieux, même des lieux où je travaille moi, hein. Enfin, j'ai organisé des concerts au Point Éphémère, mais quand on regarde les gros lieux qui ont été créés ces dernières années, le Point Éphémère et le Triptyque, par exemple, enfin, qui ont été aidés, qui ont émergé, c'est quand même des lieux à dominante rock et électro. Et il y a quand même tout un public et toute une scène musicale qui est pas cataloguée là-dedans, qui se retrouve assez démunie. Et je pense qu'il y a un manque de volonté politique, de lucidité à ce niveau-là, alors qu'il y a des associations comme la nôtre qui sont vraiment compétentes pour s'occuper de ça, pour défendre ces artistes, pour les accueillir, les encadrer administrativement, pour communiquer avec le public, rendre les choses plus visibles. Et ça, c'est le travail que je revendique aujourd'hui à travers les festivals, mais c'est plus dur de le revendiquer à l'année à travers un lieu. Et pourtant, l'avenir des festivals, y compris des gros festivals comme Banlieue Bleue ou Son Hiver, pour moi, dépend vraiment du dynamisme de ces petits lieux qui peuvent exister et être des lieux de recherche, de rencontre, de création, quoi. Et puis aussi, si je regarde la réalité d'aujourd'hui par rapport à il y a 5 ou 6 ans, il y a 5 ou 6 ans, on était dans un. On était, il y a, c'est dans, c'est, les choses étaient moins policées, c'était plus facile de faire marcher des squats ou avec des musiciens. Il y avait les falaises, la Grange Aubel par exemple, qui étaient des lieux très riches au niveau des propositions. Il y avait à l'Olympique une vraie profusion de public, d'artistes et tout ça, même dans des conditions assez précaires. Et aujourd'hui, cette dynamique s'essouffle un peu parce que on peut de moins en moins faire les choses sans subvention, sans être structuré, sans être dans les normes, dans les règles, dans les normes de sécurité, avec la législation, etc. Alors d'accord, faisons les choses dans les règles, mais pour ça, il faut qu'on nous donne les aides nécessaires et qu'on reconnaisse la valeur de ce travail.
Nous sommes toujours en compagnie de Blaise Merlin, programmateur du festival Jazz Nomade, Musique et Jardin, également au Point Éphémère, où tu fais une pause actuellement, je crois.
Oui, je fais actuellement une pause. C'est vrai que pendant 2 ans, j'ai essayé d'ouvrir cette salle qui était donc à dominante rock et électro à une programmation plus musique du monde, musique improvisée. Et ça a été un lieu super au niveau de l'accueil de l'équipe technique. de la manière dont les artistes sont accueillis techniquement, au niveau de la bouffe aussi, c'est très bien. Enfin voilà. Mais disons que les conditions en 2 ans ont fait que descendre. C'est-à-dire que il y a plus vraiment de prise de risque possible. Quand je fais venir des artistes de grande qualité, mais qui ramènent pas énormément de public, ils doivent jouer à la recette, etc. Donc moi j'ai décidé un peu aussi pour protester contre cet état de fait. Enfin c'est pas la fête, hein, mais on se comprend. de faire une pause et d'attendre qu'on propose des conditions meilleures. Je ne parle pas simplement de l'accueil technique, mais si on veut faire venir à Paris des artistes de grande qualité, enfin, je pense à des artistes comme David Eswer, Dave Liebman ou Louis Clavis, ou So Cold, que j'ai fait venir au Point Éphémère, dans des créations avec des jeunes artistes, etc. Il faut mettre le minimum de moyens et de reconnaissance, hein, comme dit l'autre, de la valeur travail. C'est aussi valable pour les artistes et pour le rayonnement d'une ville comme Paris, quoi. Donc les concerts improvisés qui m'ont le plus marqué au Point Éphémère, dont je suis le plus fier, c'était la rencontre entre Peter Corser, Médéric Collignon, Philippe Glaise et Asse Poulsen, où c'était 2 heures de bonheur total pour les 50 personnes qui étaient dans la salle. Et puis il y a eu le trio Louis Clavis, Maxime Delpierre à la guitare et Mathieu Jérôme au Fender Rhodes. Et j'ai été assez marqué par le solo de David Eswer. C'était très très beau. Il y a eu pas mal de rencontres encore, mais ça, c'est, je crois que c'est celles qui vont le plus marquer. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui à Paris, il y a une vraie vie alternative. Ça existe pour les musiques improvisées, les musiques inclassables. Il y a la TV du plateau, il y a l'Olympique avec Charlotte qui programme l'Olympique depuis quelques mois, qui fait des choses très intéressantes. Assez pointue et aussi assez ouverte et tout ça. Et puis il y a le studio de l'Ermitage, donc au Point Éphémère parfois il y a aussi des choses très intéressantes qui se passent, mais je dirais que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que dans tous ces lieux les artistes sont dans une précarité, ils manquent d'outils vraiment adaptés à leur travail. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que, à force d'être dans l'urgence, d'être de plus en plus précarisé, les artistes, maintenant, s'ils ne sont pas aidés, même par leurs parents et tout ça, ça devient très dur de s'en sortir. Et je trouve ça crée aussi des inégalités, quoi. Tout le monde doit pouvoir aujourd'hui se lancer et faire des choses sincères. Et à partir du moment où c'est un travail exigeant, un travail. Qui va chercher des choses qu'on a besoin d'entendre, modernes, originales, etc. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus étouffant. C'est-à-dire qu'on étouffe de plus en plus entre l'absence de reconnaissance publique de ces musiques-là à travers des lieux, des outils de création, des outils de diffusion subventionnés, puisque c'est vraiment que comme ça que ça peut marcher aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de disquaires indépendants, de fanzines. Enfin, tout ça, ça existait encore il y a quelques années, mais là, c'est devenu quasiment, ça a presque disparu parce que la vie est devenue beaucoup plus chère. Maintenant, si on veut faire quoi que ce soit en étant libre et indépendant, on peut pas si on n'a pas d'argent, quoi. Même faire de la musique en faisant des petits boulots, ça devient, enfin, c'est, je pense qu'il y a, il y a quelques années, on pouvait encore tenter beaucoup de choses sans argent. Aujourd'hui, ça devient très difficile. Donc, si les pouvoirs publics se mobilisent pas autour de ça pour préserver ces espaces de liberté et de création qui font aussi la, qu'il y a des grands festivals subventionnés comme Banlieue Bleue et tout ça qui font que finalement les programmations restent intéressantes et captivantes, bah, je ne sais pas où on va, mais dans 15 ans, il n'y aura plus rien, quoi. Enfin, tout sera complètement formaté.
Et dans le style musical que tu programmes, donc le jazz, les artistes vivent difficilement s'ils n'ont pas plusieurs groupes ou plusieurs projets.
Ah ouais, mais en ce moment, mais c'est très, oui, c'est très difficile. Alors, il y en a quelques-uns comme Médéric Collignon ou Akoche, et encore, ils ont des moments où ça marche très bien, où on les programme dans tous les festivals. Et puis, mais c'est vrai qu'ils sont obligés de participer à 15 projets différents pour pouvoir tenir. Dès qu'ils veulent faire leur propre projet, ça devient le parcours du combattant. Il n'y a pas de lieu vraiment pour ça à Paris, hein, de résidence, de présentation comme ça, de travail. Et puis, ouais, non, ça se referme de plus en plus. Moi, les démos que je reçois aujourd'hui sont dans l'ensemble moins, peut-être moins original que ce que je recevais il y a 5 ou 6 ans, parce qu'on sent aussi qu'il y a une peur des musiciens de ne pas rentrer dans tel ou tel circuit de diffusion, même institutionnel ou pas. Donc moi, je trouve ça très très inquiétant, ouais.
Thank you.
Nous sommes toujours en compagnie de Blaise Merlin, programmateur de Jazz Nomade et Musique et Jardin, entre autres. Comment découvres-tu les artistes, puisque tu parles de démos que tu reçois notamment?
Alors, je découvre les artistes. Alors, bon, franchement, ça a évolué au fil des ans. C'est-à-dire qu'au début, je découvrais les artistes en allant moi-même dans les concerts un peu alternatifs, toujours un peu dans les mêmes endroits, et en étant moi-même musicien, en faisant des études d'ethnomusicologie, de jazz et tout, à la fac de Saint-Denis. J'ai rencontré plein de gens super qui m'ont fait. J'ai découvert des gens vraiment humainement. Et puis après, ces rencontres humaines font qu'on rencontre aussi d'autres gens par les gens qu'on aime. Et puis après, il y a toutes ces démos qu'on reçoit quand on commence à être un peu repéré en tant que programmateur. Au début, je recevais des choses assez ciblées, quoi, parce que les gens savaient bien ce que je programmais. Et puis quand l'Olympique est devenu connu et mon activité est devenue connue, par la suite, je me suis mis à recevoir tout et n'importe quoi parce que on reçoit quasiment enfin, les gens regardent dans l'officiel de la musique, ils voient le nom de votre asso, votre festival, ils vous envoient automatiquement, que ce soit les labels, les tourneurs, les artistes. Donc c'est de plus en plus dur de faire le tri. Mais c'est vrai que je continue à privilégier la rencontre humaine, essayer d'aller voir beaucoup de concerts. Quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais voir les artistes après les concerts, je les rencontre. Souvent, quand quelque chose me plaît, c'est pas seulement parce qu'il y a une grande qualité ou une esthétique particulière, c'est parce qu'il y a une démarche qui est aussi une démarche humaine, qui est de mélanger par exemple les musiques populaires et les musiques savantes. Le texte, enfin, je sais pas comment vous dire, c'est un feeling qu'on a au fond de soi, et après, on sent très vite si ça passe ou pas, quoi. Et soit en écoutant des disques, soit en allant au concert, mais c'est plus en allant directement rencontrer à la rencontre des artistes, par oui dire aussi, et tout ça, que je fais les plus belles rencontres, quoi, les plus durables.
Bien, Blaise Merlin, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'attire au niveau musique
Alors, c'est marrant parce que ça va vous surprendre, mais ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressé à d'autres musiques que celles qu'on entend sous nos latitudes. Je me suis beaucoup intéressé justement aux musiques de La Réunion, au Séga, au Maloya, qui pour moi ont une histoire assez qu'on peut vraiment mettre en parallèle avec le blues, le jazz. C'est vraiment la subsistance de cultures qui ont été un peu alors moins déracinées que dans le cas de la culture noire américaine, puisque les esclaves à La Réunion et tout ça, c'est une autre histoire, mais on entend un blues, un chant qui rappelle qui est vraiment proche de celui qu'il y a dans l'histoire du jazz. Un esprit d'oralité aussi très fort, donc c'est pour ça que ça m'a poussé à imaginer cette soirée sur la créolité là dans le prochain Jazz Nomade. Et voilà, je me suis beaucoup intéressé à toute cette vague de musique réunionnaise moderne avec Daniel Ouaro, Nathalie Natiembe, et puis aussi Menwer de Lynn Morris, chanteur de Lynn Morris, et puis voilà. Et puis en ce moment, j'écoute Spike Jonze, mais ça c'est les années 50. Un peu ces musiques de cartoon complètement folles, dont je me suis amusé à faire des remixes hip-hop et drum and bass, mais ça c'est une autre histoire. Et puis parce que je suis DJ à mes heures perdues, notamment à l'Alimentation Générale, un petit clin d'œil en passant à nos amis de l'Alimentation Générale, rue Jean-Pierre Timbaud. Et j'écoute j'écoute beaucoup de musique du monde en ce moment. C'est toujours une manière de se ressourcer, de découvrir, même pour quand on s'intéresse au jazz ou à la chanson, d'aller puiser dans des univers musicaux, dans des approches différentes de la musique, dans des sonorités qu'on ne connaît pas. Moi, je continue à être un féru de musique ethnique, comme on dit, mais aussi de musique du monde plus actuelle. Oui, puis j'ai découvert avec joie, au point éphémère, Konono numéro 1. Et c'est toute cette vague de musique urbaine congolaise de Kinshasa, avec ces musiciens qui jouent dans les rues, avec des mégaphones géants en guise d'ampli, avec un son super crade. Et là aussi, on retrouve une espèce de chant proche du blues, mais qui part dans des rythmes assez complexes, très dans la trance. J'ai repéré tout le travail de cet ethnomusicologue, qui je ne sais plus son nom, mais c'est un peu comme Francis Falsetto avec les Éthiopiques, mais là, c'est pour les musiques congolaises. Et il a collecté, alors c'est toute une collection qui s'appelle Congotronics, et où on trouve ces musiques congolaises modernes là, que je trouve géniales. J'écoute beaucoup ça aussi en ce moment.
Du monde, est-ce que ça t'est arrivé de voyager pour écouter ces musiques aussi?
Ouais, je suis allé, quand j'étais en ethnomusicologie, je suis allé en Sardaigne où il y a des chants très étonnants, des chants de gorge, des chants religieux, mais aussi pas religieux forcément, des polyphonies, et où on était allé comme ça pour collecter des chants avec Giovanna Marini. Et je suis allé au Maroc aussi, où par des amis qui voyagent beaucoup, qui sont musiciens, j'ai pu rencontrer des Gnawa à Taroudante, alors des vrais Gnawa, vraiment dans des conditions assez rock'n'roll, et où on fumait d'énormes calumets jour et nuit en faisant de la musique, que j'essayais d'accompagner avec mon violon. Mais j'essaye toujours, en tout cas, d'aller à la rencontre des musiques que j'aime. Alors, comme j'ai pas forcément beaucoup le temps de voyager avec tout le travail que je fais sur les festivals, j'essaye aussi d'aller voir les musiciens qui sont de passage à Paris. mais pour moi, ça reste très important d'aller toujours au-devant des gens qui font la musique, quoi.
Alors, combien fais-tu de concerts en général dans une semaine?
Alors, combien je vais en voir, c'est assez variable. J'ai des périodes où je vais en voir 3, 4, 5 par semaine. Quand il y a aussi des festivals comme Son Hiver ou Banlieue Bleue qui ont toujours des programmations assez intéressantes, j'essaye d'y aller, j'y vais plus souvent dans ces moments-là. Sinon, ça m'arrive d'en avoir ras-le-bol et de vouloir faire le vide et d'aller voir un seul concert par semaine. Voilà. Mais je crois que c'est un minimum.
Quels sont les lieux que tu privilégies en particulier ?
Ah, les lieux que je privilégie en particulier. Alors, c'est dur aujourd'hui de trouver un lieu où il y a vraiment toute la musique que j'aime. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des lieux où je me retrouve assez régulièrement, comme l'Atelier du Plateau, l'Olympique, avec la programmation de Charlotte de Jésus, que je trouve vraiment intéressante. Il se passe des choses parfois en banlieue aussi. Alors là, c'est assez éparpillé, c'est pas un lieu en particulier, mais souvent en banlieue il y a des lieux intéressants. Il y a la Guillotine à Montreuil, il y a l'espace 1789 à Saint-Ouen, il y a la Dynamo maintenant à Pantin. Mais j'ai, en ce moment, malheureusement, j'ai pas un lieu précis à recommander, mais je trouve que à Paris il se passe des choses très intéressantes à l'Atelier du Plateau, parfois au studio de l'Ermitage et à l'Olympique. Voilà.
Nous sommes toujours en compagnie de Blaise Merlin, programmateur du festival Jazz Nomade et Musique et Jardin. On parlait de la difficulté pour toi de trouver un lieu. Alors, on va parler justement du lieu que tu vas créer alors.
Ouais, alors, je vais pas créer le lieu parce que le lieu il a été créé avant que j'arrive. Mais disons que c'est justement, c'est mélanger des forces vives Il y a Philippe Dubois donc qui a monté ce lieu, la teinturerie dont je parlais tout à l'heure, qui est un lieu assez ancien de la Goutte d'Or, qu'il a complètement retapé, rénové. Et ça donne un magnifique loft avec un sous-sol, avec des bureaux, avec un espace scénique assez vaste qui permet pas mal de configurations différentes. Et donc, on va essayer de faire de ce lieu qui est pour le moment utilisé de manière commerciale aussi, en location et tout ça. On va essayer vraiment d'en faire un lieu dédié à la création et à la diffusion de musique nouvelle dans le domaine du jazz, des musiques du monde, du slam, etc. Je voudrais organiser, un peu comme je fais au Bouffe du Nord dans mon festival, des soirées un peu en forme de cabaret avec des rencontres qui peuvent être spontanées d'ailleurs entre l'oralité, l'improvisation, les musiques électroacoustiques, qui pourraient se finir par un bal. J'ai toujours dans cette idée de mélanger des formes festives et pointues. Voilà, on voudrait puis faire aussi un lieu de répétition, puisqu'il y a un sous-sol très intéressant, bien insonorisé, qu'on pourrait transformer en local de répétition. Donc bien sûr, pour ça, on est en train de faire des dossiers pour avoir des aides, de créer des emplois. C'est une manière aussi de bien montrer que notre activité, c'est pas juste un ou deux festivals à l'année, qui prend déjà un travail énorme, pour lequel on manque encore pas mal de moyens. Y a des gens comme Caroline Palacio-Hébert, Palacio-Boer, et Julie Weirich, Charlotte de Jésus, qui veulent travailler aussi de manière collective pour pouvoir développer des activités régulières où les artistes soient vraiment au cœur et le public quoi, des préoccupations.
Donc à l'image du Festival Banlieue Bleue, qui a un lieu à Pantin qui s'appelle la Dynamo, tu voudrais créer pour le festival au Bouffe du Nord Jazz Nomade un lieu sur l'année en fait.
Ouais, c'est vrai que les Bouffes du Nord, on présente des créations qu'on fait toute l'année, des rencontres, des artistes qui ont envie d'essayer des choses. Et on veut leur permettre de pouvoir faire ça chez eux, à Paris, avec le public qui est très demandeur, le public des quartiers populaires, et pas que des quartiers populaires, c'est un public très mélangé. Et on voudrait pouvoir baliser un peu plus le terrain, apporter plus d'outils. C'est pour ça qu'on essaye de faire ce travail. Alors, je pense qu'il y a une différence avec la Dynamo à Pantin, c'est que nous, on ne cherche pas forcément à faire un très gros lieu de 300 places, parce que je pense que ce n'est pas la réponse. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire quand on est en banlieue pour attirer vraiment des forces du public et tout ça. Mais je pense qu'à Paris, on a plus besoin d'un tissu de petits lieux, mais très bien structuré et très bien encadré, pour pouvoir toucher vraiment le public, des lieux conviviaux, de proximité, etc. Et c'est très important que ces lieux subsistent aussi dans Paris.
Présentons donc Caroline.
Voilà, donc Caroline que j'ai rencontrée parce qu'elle travaillait avant à Graines de Soleil, qui est une compagnie de théâtre du quartier, et qui ensuite a coordonné le projet d'échange entre Paris et Zurich, entre la Goutte d'Or et un quartier assez similaire de la Goutte d'Or à Zurich. Et donc on s'est rencontrés comme ça, et puis Caroline avait envie de continuer à la Goutte d'Or à développer des actions dans la durée, et notamment avec ce lieu, la teinturerie. Donc là, elle va vous en parler à la fois de Paris-Zurich et du projet de lieu.
Paris-Zurich pour commencer peut-être. Donc il s'agit d'un projet qui a débuté il y a plus d'un an et demi et dont l'objectif en fait était de mettre en regard et en perspective les différentes réalités urbaines de deux quartiers populaires en fait, donc à savoir la Goutte d'Or et la Langstrasse à Zurich 4. Et donc pour cela, sur un an, il y a eu des ateliers de mis en place avec les habitants, donc de nombreuses associations ont participé, et des résidences d'artistes. Donc les artistes parisiens de différentes disciplines sont partis dans le quartier à la Langstrasse, et nous avons accueilli les artistes zurichois à Paris. Et tout cela complétait des échanges historiques et sociologiques. Et donc en mars, du 16 mars au 1er avril, il y aura une exposition qui rassemble en fait tout ce résultat, qui est tout cet échange, ces regards croisés qui se sont déroulés sur un an et demi. Voilà, donc à la teinturerie de plume, au lavoir moderne avec Argour 21.
Comment est né le projet de faire le lien entre Zurich et Paris?
Alors l'idée est née de Nadine Schneider et de l'association Zwei Mal Zwei, et elles sont arrivées dans le quartier de la Goutte d'Or Et peu à peu, enfin progressivement, nous sommes rencontrés par pur hasard. Et il se trouve que moi, quand elle m'a présenté le projet, enfin, de mettre en regard ces deux quartiers, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où ça permettait de passer au-delà des stéréotypes en fait que nous on pouvait avoir de la Suisse et de décloisonner aussi l'image justement de ces quartiers.
Merci Caroline et merci Blaise Merlin, merci beaucoup.
Merci à toi et à très bientôt dans les super concerts.
Fréquence Paris Pluriel 106.3. Thank you.